Saül, je rappelle un peu où on en est. Saül était parti à la recherche des ânesses de son père. Il était parti avec un serviteur de son père. Et puis, après un certain temps, il se dit, je vais quand même rentrer parce que mon père, il va s'inquiéter parce que je ne suis pas à la maison. Et le serviteur qui est avec lui, il lui dit, attends, je sais, il y a un prophète qui est là-bas. On va aller le rencontrer, il va nous dire où sont les ânesses. Ok, bon, ils y vont. Pendant ce temps, Dieu parle au prophète. Donc le prophète, c'est le porte-parole de Dieu au niveau des hommes. Donc Dieu parle à Samuel, le prophète, et lui dit qu'il faut établir Saül, roi, chef de son peuple. Il faut faire tout cela. Parce que, en fait, le peuple d'Israël veut un roi, comme les autres nations. Veut un roi qu'il gouverne et ne veulent plus de Dieu, ne veulent plus être gouvernés par Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, leur accorde un roi pour le remplacer quelque part. Un roi qui permettrait de juger, un roi qui permettrait de conduire le peuple, un roi qui permettrait d'avoir une prestance physique et de pouvoir gagner des guerres avec un chef bien visible. Le peuple rejette la royauté divine. Et donc, ce qui se passe, c'est que Dieu raconte à Samuel tout ce qui va se passer. Samuel va aller rencontrer Saül et il va lui dire ce qui va se passer. Parce que Saül, du coup, arrive quand même voir Samuel. Et je ne sais pas si vous voyez un peu les films d'action, genre braquage à l'italienne, les trucs un peu comme ça là. Vous voyez le chef qui est dans un entrepôt désaffecté et il raconte le plan aux gars qui viennent avec eux. Il va dire, il va se passer ça, et puis on a toutes les images qui se défilent. Ils vont voir la banque, ils vont ouvrir telle porte, et on voit tout ce qui se passe. Et donc, Samuel raconte tout ça à Saül. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il va se passer ça, 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 dans les moindres détails. Et Samuel dit, ok. Enfin, on n'a pas ça, mais c'est ce que le texte nous suggère. Il dit, ok, allons-y. Et à la fin, Samuel dira à Saül, ensuite, c'est un verset qui est important pour notre texte, ensuite, tu descendras avant moi à Gilgal, et je descendrai après toi offrir les sacrifices. Là, tu attendras 7 jours que j'arrive. Et là, c'est ce qui va se passer dans notre texte. Saül est à ce moment-là content, il vient de gagner une guerre contre un autre peuple. Il est content, il vient d'affermir sa royauté. Il y a certains du peuple qui le défient un peu, mais il est gentil avec eux, il est un bon roi, clément, il leur fait grâce. L'Éternel donne la victoire à Saül. Saül arrive du coup au lieu indiqué par Samuel. Et nous arrivons au chapitre 13 du livre de Samuel. Si on peut afficher. Je vais lire et puis je vous propose de suivre si vous préférez. Lire qu'écouter ma voix. Saül était âgé de 30 ans à son avènement et il régna 42 ans sur Israël. Il sélectionna 3000 soldats d'Israël, 2000 pour rester avec lui à Micmar et dans la région montagneuse de Bethel, et 1000 qu'il plaça sous les ordres de son fils Jonathan à Gibéa de Benjamin. Les autres soldats furent renvoyés dans leur foyer. Jonathan abattit la stèle dressée par les Philistins à Geba. C'est une autre ville, hein. c'est pas une faute, c'est Geba et Gibéa. Alors, se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Saül fit annoncer la chose au son du cor dans tout le pays, que les Hébreux le sachent. Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël s'était ainsi rendu odieux aux Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gilgal pour aller combattre avec Saül. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient pas moins que 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable de mer. Ils allèrent prendre position à Micmar, à l'est de Ben-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galad, Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée, qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors, Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmar, je me suis dit, « Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. » Alors, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais, puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. » Mais ta royauté ne subsistera pas, je me suis perdu. Si tu l'avais fait, l'Éternel t'aurait affirmé ta royauté royale. Il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours. Puis, Samuel le quitta et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül, dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il lui restait environ 600 hommes. On saute quelques versets, on arrive au verset 19. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leurs socs de charrues, leurs pioches, leurs haches, leurs bêches. Et lorsque leurs bêches, leurs pioches, leurs tridents et leurs haches étaient émoussés, ainsi que pour redresser les aiguillons, c'est pourquoi, le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée, ni lance. Seuls Saül et son fils Jonathan en possédaient. Voyez qu'on peut. Il y a une forte pression pour Saül. Si vous voyez un peu la carte, ils sont assez proches. Hein. On a les Philistins qui sont très proches du peuple d'Israël. On pourrait dire à 10 km, ils sont d'un et de l'autre côté de la vallée. On a Saül qui a très peu de guerriers. Les autres sont très nombreux. Et même le texte dit qu'ils sont nombreux comme les grains de sable. Donc, comme si c'est pas suffisant, pas de dire qu'ils sont nombreux, ou ils ont 6000 avec eux. Voilà, il dit aussi nombreux que le sable. Et puis, ce qui est encore plus difficile, la pression continue à monter, tous les gars de Saül se barrent. Il reste 600 hommes avec Saül. Personne n'avait d'armes, sauf Saül et Jonathan. L'accumulation de choses qui fait que la pression est assez forte pour Saül. Tout le monde est armé, sauf le peuple d'Israël. Si on peut pas, ouais. Je te fais signe comme ça. C'est pas que je fais du disco, mais c'est que voilà, c'est pour enchaîner les diapos. Tout le monde est armé, sauf le peuple. Comment ne pas avoir peur? Comment ne pas trembler? L'échéance arrive. Les Philistins sont là, ils vont les défoncer. On a une armée monstrueuse qui arrive. C'est la grande bataille. Je ne sais pas si vous avez des grosses échéances qui arrivent. Et des choses qui ne se passent pas comme prévu. Genre, vous prévoyez déménager. Il faut tout finir, sinon vous êtes à la rue. Votre mission de travail se termine. Il faut trouver un travail, sinon vous n'avez plus rien. Ou vous êtes malade et vous voyez la maladie qui s'aggrave. Ou un proche, vous paniquez, la pression monte. Vos enfants font des choix différents des vôtres et vous sentez la pression qui arrive parce que vous voyez qu'ils commencent à faire n'importe quoi. Ou en tout cas pas ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. La pression monte. Ou vous avez une galère financière qui arrive. Alors, pas une énorme galère, mais suffisamment pour vous plomber un budget et pour vous dire, il faut qu'on fasse un choix financier, là, on a un problème, un vrai problème. La pression monte. Est-ce qu'on va arrêter de faire tout ce qu'on faisait? Est-ce qu'on va arrêter nos offrandes? La pression monte. Saül a mal négocié la sienne. Qu'allons-nous faire, nous, face à la pression? La pression est très forte. Et Samuel n'est pas au rendez-vous. Saül attendait conformément à ce que Samuel lui avait dit. Il avait déroulé tout le plan, il attendait. Et puis, Samuel n'arrive pas. Saül a peur. Quoi faire? Le texte nous insiste, il nous dit au verset 12 qu'il s'est fait violence pour offrir les sacrifices. Il ne l'a pas fait de bon cœur, il ne s'est pas dit « Ah chouette, Samuel n'est pas là, profitons-en, il y a une brèche ». Non, il s'est fait violence pour offrir le sacrifice. Il y avait une forte pression, pression de plus personne. Le sacrifice qui était important à l'époque, qui permettait d'apaiser Dieu, de rendre propice Dieu pour la guerre, d'inclure Dieu quelque part pour voir si Dieu était d'accord ou était partie prenante de ce qu'il faisait. C'était une sorte d'approbation aussi pour Dieu, du peuple pour Dieu. C'est Samuel qui n'est pas au rendez-vous et c'est Saül qui se fait avoir. Verset 13. Voilà. Verset 13. Ok ? Encore ? Bon, c'est pas grave. Verset 13. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Normalement, c'est une erreur 404 ou un truc comme ça. C'est Samuel qui, a priori, semble faire des bêtises et c'est Saül qui y prend. C'est étrange. On dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est Saül qui en prend plein la tête quelque part? C'est Saül le coupable. Ça paraît tellement injuste, nous dirait Calimero. Comment comprendre? Comment comprendre cette faute? À qui la faute? Je vous propose 4 possibilités, mais j'en retiendrai qu'une. La première possibilité, la faute de Dieu. Dieu qui aurait voulu tester Saül en lui tendant un exercice, en essayant de retarder Samuel pour tenter Saül et puis lui dire en fait, tu vois, t'as pas respecté. Mais bon, je l'écarte rapidement. Dieu respecte ses engagements. Dieu est fidèle. Même si par ailleurs il peut éprouver, il peut mettre à l'épreuve, alors j'aime pas le mot épreuve parce que c'est négatif, mais en tout cas, faire exercer la foi de ses enfants. Mais là, Dieu reste fidèle. Dieu respecte ses engagements et on peut le voir à travers toute la Bible. Quand Dieu s'engage, il le respecte. Alors c'est pas de la faute de Dieu. Le texte nous propose que c'est seul Saül qui a commis la faute. Soit parce qu'il n'a pas vraiment attendu. Là, sa montre était mal réglée et du coup il a cru que en fait Samuel était en retard, mais il n'était pas si en retard que ça. Soit, et après on ne sait pas quelle loi il a désobéi. Soit en tout cas on nous dit qu'il a désobéi à une loi. On ne sait pas si parce qu'il n'a pas attendu ou c'est parce qu'il a fait le sacrifice. Le texte ne le dit pas, mais en tout cas il a désobéi. Troisième possibilité, c'est Samuel qui pour coup a peut-être lui oublié de regarder sa montre. Il a peut-être eu une crevaison, on ne sait pas. Peut-être que Samuel n'était pas au rendez-vous. Ou peut-être que c'est les deux, Samuel et Saül. Donc vous voyez, je ne m'avance pas beaucoup en disant tout ça. Hein. Peut-être que c'est les deux, Samuel et Saül, qui ont loupé leur rendez-vous. En tout cas, l'auteur du texte met juste le focus sur Samuel. On ne sait pas réellement si l'auteur met juste le focus sur Saül. On ne sait pas si Samuel a bien fait, mal fait. Dieu ne dit rien dans le texte à ce propos. Et d'ailleurs, des fois, dans l'Ancien Testament, vous lisez un peu, vous verrez que Dieu ne dit pas toujours ce qu'il en pense. Il laisse les choses se faire. Et puis après, on voit que même quand les gens étaient infidèles, Dieu lui reste fidèle. Le texte met en avant la faute de Saül pour montrer que ce n'est pas un roi selon le cœur de Dieu. Le peuple, je vous le rappelle, a voulu un roi, comme les autres peuples. Saül semblait avoir tout pour réussir. C'était un gars jeune et beau, plus beau que tous les autres Israélites, et il est passé tous d'une tête. On voit que par la suite, il avait fait ses preuves face aux Ammonites. Il avait gagné la guerre. Il avait été clément avec le peuple, avec certains opposants. Et on se met tellement à sa place, à la place de Saül. Pas pour sa beauté, bien entendu, mais parce qu'il est là. Il a respecté ce qu'on lui disait. Il a tout fait juste depuis le début. Il a attendu, il s'est fait violence. On se met à sa place. On se dit, mais c'est pas sa faute. La sentence nous semble tellement injuste. Il n'a rien demandé, lui. Il n'a pas demandé à être roi. On est venu le chercher. Et quand Samuel a voulu le consacrer roi, il s'est encore caché dans les bagages. Et on a dit, si, il est là-bas, il est caché. Vous ne voyez pas, il est là-bas. Saül n'a rien demandé pour être roi. Mais pourtant, Dieu, l'a équipé. Dieu l'a équipé pour sa mission. Dieu a changé son cœur. On nous dit que le souffle de Dieu s'empare même de lui. Et de manière ponctuelle, il a prophétisé avec d'autres prophètes. Au chapitre 10, des versets 9 à 11. La pression est forte pour Saül. Il a perdu pied. Saül a commis une faute. Il a péché. Il est semblable à nous. Un pécheur. Et c'est pour cette raison qu'on s'identifie facilement à lui. Parce qu'on pourrait être dans la même situation. Et la sentence nous paraît injuste. Et on se met tellement à sa place. Mais le problème, c'est qu'on se trompe de comparaison. C'est nous-mêmes qui nous comparons à Saül. Alors qu'il faudrait comparer ce que fait Saül à Dieu, à ce que Dieu propose, pas à nous. Ce n'est pas nous qui allons définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est Dieu qui le définit. Il l'a défini pour le peuple, à travers sa loi qui n'est pas des... à travers sa loi, qui est un guide. Dieu fixe ce qui est bon ou mal. Nous sommes désobéissants. On ne voit pas comme Dieu voit. Notre perception de la réalité a été perturbée et c'est pour ça qu'on se dit que c'est un peu injuste. C'est totalement injuste. Et dans cette période, on peut se dire que Saül s'est posé 36 000 questions. Est-ce que Samuel m'a réellement dit qu'il fallait attendre 7 jours? Est-ce qu'il n'aurait pas sous-entendu que si je ne suis pas là dans 7 jours, tu pourras faire le sacrifice à ma place, sachant que tu as déjà vécu des phénomènes, en tout cas, quelque chose de particulier en prophétisant avec d'autres prophètes? Est-ce qu'il n'aurait pas sous-entendu? Et puis, on en revient à la question de départ. Est-ce que Samuel a réellement dit, 3 petits points, pour faire référence à Genèse avec Adam et Ève? Saül a dû se poser toutes ces questions. Il va se faire avoir, il va se faire matraquer, écraser, tuer. Il voit la pression qui est là, il voit l'armée qui est là. Quoi faire? Et vous avez peut-être plein d'expériences, mais moi, dans mon expérience, quand je suis stressé, je perds de mes capacités. Et d'autres aussi, par exemple. Si vous voyez une mamie qui traverse la route n'importe comment et qui va se faire écraser, deux solutions. Soit vous êtes tétanisé et vous fermez les yeux, au hasard. Soit vous réagissez. Vous accélérez pas, c'est pas ça que je... Soit vous réagissez, vous freinez. Quand on ne sait pas très bien gérer une situation de stress, on fait des erreurs. Et c'est pour ça que, vous voyez, les militaires, ils répètent les mêmes mouvements, pour que, dans une situation de stress, les choses deviennent des réflexes. C'est pas situation de stress, on fait ça, on ne sait pas pourquoi on l'a fait, mais on l'a fait. C'est devenu un réflexe. Et c'est ce que vous faites aussi dans le sport, dans les arts martiaux. C'est, on répète les mêmes mouvements. On s'entraîne. Saül est dans une situation totalement inconnue. Il n'a pas demandé à être roi. Il n'est pas formé à la guerre. Même s'il vient d'une famille assez riche. Il est en stress. Une grosse pression. Et je le rappelle, hein, on ne sait pas si Samuel a 0% de tort ou s'il en a 50%. Ce que le texte nous dit, c'est que Saül, lui, a mal négocié son stress, a mal négocié la situation. Samuel n'est pas le personnage de l'histoire. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend à garder confiance. À garder confiance dans cette attente quand on ne sait pas ce qui va se passer. Quand les échéances arrivent, quand une pression forte arrive. Et comme Saül, on va se poser 36 000 questions. Et le stress va commencer à nous faire perdre notre lucidité. Nous allons risquer de baisser les bras, de plus faire confiance en Dieu, d'agir trop rapidement. Cette histoire nous appelle à persévérer. Même quand tout nous semble foutu. Comment faire ? Quand même. Dieu n'est pas là, par l'intermédiaire de Samuel, quand Dieu ne répond pas. Jusqu'en quand on va attendre la réponse de Dieu ? Jusqu'à quand Saül va attendre Samuel ? On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à quand, mais il faut attendre. C'est ce que le texte nous rappelle. En tout cas pour Saül. Pour sa situation à lui, il aurait dû attendre. Comment savoir s'il faut attendre ou continuer ? Rien de nouveau, mais juste nous souvenir, qu'il faut se souvenir justement, des promesses de Dieu. Ce qu'on a déjà vécu avec Dieu par le passé, ce que la Bible nous rappelle de ce que le peuple a vécu avec Dieu par le passé, ce que nos frères et sœurs vivent avec Dieu aujourd'hui par le passé. S'appuyer sur des choses factuelles qui nous rappellent ce que Dieu promet et en quoi il s'engage face au peuple. Se souvenir de qui est notre Dieu. Un Dieu, on l'a vu tellement dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, qui gère toutes les situations, qu'on peut lui faire confiance, on peut lui faire confiance. Mais le texte suggère aussi que Saül, je vais y arriver hein, à la fin, que Saül, lui, a fait plus que sa part. Sa part, c'était d'aller jusqu'au lieu indiqué et d'attendre. Il a quand même fait sa part. Le texte nous rappelle que nous devons aussi faire notre part. Prendre des engagements, avancer, mais pas plus que notre part. Et des fois, attendre. Peut-être des fois dans des situations inconfortables. On aimerait bien encourager Dieu à agir plus vite. Mais on n'en sait rien, ce n'est pas notre temps, ce n'est pas nous de décider. Tension assez difficile à vivre. Dieu, tu fais quoi ? Dieu, tu es où dans ces situations ? Saül n'a rien demandé, il n'a pas demandé à être roi. Et pourtant, Dieu l'a équipé. Dieu l'a équipé malgré que lui non plus, il n'a pas demandé à ce que Saül soit roi au départ. Mais Dieu est là, il équipe. Alors, un gars ordinaire. Saül, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être nous en Église. On attend des réponses de Dieu. On ne voit pas les choses qui avancent. Et tu te dis, qu'est-ce que tu fais ? Tu sembles inexistant, ne pas répondre. Ni en bien ni en mal, hein, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on peut voir David dans les psaumes par la suite. Qu'est-ce que tu fais, Dieu ? Des fois, Dieu tarde un peu à répondre. Et pourtant, Dieu dit, fais-moi confiance. Et foi en moi. Je prends soin de toi, je prends soin de ma création. Nous dire et nous rappelle, n'oublie pas que je suis là, que je maîtrise tout. Jésus est à la droite du Père. Il est là, il intercède pour nous. Dieu connaît son plan, connaît ce qui va se passer. On a des raisons de lui faire confiance. Ce texte nous invite à prier pour que Dieu nous garde d'agir trop rapidement, pour que Dieu nous équipe à faire confiance en lui, pour que notre foi, justement notre confiance, grandisse. Et les personnes de la Bible, Paul a souvent prié pour que sa foi augmente et prie pour que la foi des Philippiens, pas des Philistins, des Philippiens, augmente aussi par exemple. Souvenons-nous, rappelons-nous, la croix. C'est pas comme je le rappelais un peu dans l'édito, c'est pas nos efforts qui vont faire en sorte que nous allons avoir aussi plus foi en Dieu. Bien sûr, ça aide. Mais c'est surtout en comprenant la grâce de Dieu à travers le Christ que nous allons avancer, que nous allons mettre en perspective ce qui nous arrive avec Dieu. C'est en contemplant la croix, en comprenant la croix, que nous allons avancer et faire confiance en Dieu. On n'est pas meilleur que Saül. Comment allons-nous négocier ces situations durant toute l'année? L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vous propose d'écouter un chant pour méditer, pour essayer de voilà ce que vous en retirez et d'affirmer peut-être à nouveau en vous-même votre confiance en Dieu.
Non, nous ne serons jamais tout seuls, car le Dieu de victoire habite en nous.